Eh bien, de retour dans les studios, du coup, avec Stéphane Boras, on a parlé ces derniers jours des différentes révélations de Mediapart et de la lutte, en tout cas, contre la privatisation de la gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Bonjour Stéphane. Oui, alors merci déjà de d'être venu pour parler de cet aéroport.
Merci de nous avoir invités.
Ouais, c'est vrai que là, en ce moment, on voit ce qui se passe à quelques kilomètres de chez nous et on se demande quel business est en train de se tramer, surtout que là du coup c'est des questions d'économie et que c'est pas facile de comprendre tout ça. On va peut-être revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'était l'aéroport avant sa privatisation et à partir de quand est né ce collectif aussi.
Alors la privatisation commence pas en fait l'année dernière, contrairement à ce que tout le monde pense, elle commence en 2007 avec la transformation d'un établissement public en société anonyme.
D'accord.
L'établissement public était géré par la Chambre de commerce et d'industrie.
Donc l'établissement public, on parle bien de l'aéroport.
Oui, la gestion de l'aéroport.
Les
murs eux-mêmes, les terrains, c'est autre chose, mais sa gestion.
D'accord. Hein. Okay.
C'est un peu comme une autoroute, si tu veux. Il y a la route et puis il y a la gestion qui est confiée à du privé.
D'accord. D'accord.
Voilà, c'est un peu la même chose qui se passe. Donc sa transformation en société anonyme est le début de la privatisation. En 2007. Mais elle avait des actionnaires, puisque quand on parle de société anonyme, on ne parle plus d'intervenants publics, mais d'actionnaires, qui peuvent être publics ou privés. Son actionnariat était composé à 60%, j'enlève les virgules,
on va pas chipoter.
Se fatiguer avec ça, 60% par l'État, 25% par la Chambre de commerce et d'industrie,
d'accord.
Et le reste à part égale entre le conseil général, maintenant conseil départemental de la Haute-Garonne, le conseil régional Midi-Pyrénées et à l'époque la mairie de Toulouse, maintenant la métropole toulousaine.
D'accord. Donc ça c'était à partir depuis 2007.
Depuis 2007. Bon. D'accord. Au passage, l'État a racheté pour l'euro symbolique la gestion à ce moment-là.
D'accord.
Il n'y a pas eu de transfert en fait d'argent. L'année dernière, probablement, enfin, à coup sûr, avant les élections municipales, le ministère de Montebourg a entamé le dossier de privatisation, enfin en tout cas de vente des parts de l'État.
D'accord. Qui était de 60% à ce moment-là.
Qui était de 60%. En fait, ils ont entamé le processus une fois Montebourg parti, donc le fameux Montebourg,
oui, avec tout le scandale,
blablabla, tout ça. C'est Macron qui a repris le sujet. Et l'offre de vente, en fait, c'est une offre de vente des 49,9% des parts de l'État conservant les 10 et quelques
les
qui restent,
ouais.
a été annoncé mi-juillet 2014.
D'accord. Donc mi-juillet, c'était en vente.
Voilà, ils entament le match. Alors, d'accord, avec des procédures, puisque ce sont des actions de l'État, donc l'État n'est pas un actionnaire privé normal, évidemment,
oui,
c'est l'État. Donc il y a des procédures juridiques, dont je ne vais pas vous parler longuement parce qu'on s'endormirait vite,
ouais,
même si c'est très important. Entamer ça, il y a eu plusieurs repreneurs qui se sont mis sur le coup. Pendant ce temps-là, notre collectif s'est constitué, mais si vous voulez, si tu veux, j'y reviendrai un peu après, contre la vente, pas contre la vente aux Chinois, hein, contre la vente tout court.
Oui, peu importe.
Oui, absolument. Peu importe, mais on viendra quand même sur le problème particulier de la vente d'un actionnaire.
Très bien, ok. Donc, vous êtes constitué.
Donc là, on s'est constitué.
Juillet 2014.
Non, un peu après, parce qu'il faut le temps d'eux, on a été pris de court. Il a fallu constituer un collectif qui s'est en fait constitué autour d'un recours au Conseil d'État contre la vente.
D'accord. Ouais.
Et qui a allié deux grands courants, on va dire, ou trois grands courants, je ne sais pas comment on peut dire, dans notre ville de Toulouse.
Mm-hmm.
C'est d'un côté les associations de quartier et une association qui les fédère, qui est l'association contre les nuisances aériennes, présidée par Mme Chantal Berdemander, que j'ai découvert à l'occasion, qui est une militante extraordinaire sur la ville toulousaine, mais qu'on ne côtoie pas habituellement, parce que nos réseaux militants ne sont pas tout à fait les mêmes, probablement.
D'accord.
Ça d'un côté, ceux qui sont attachés, opposés à la vente des biens publics.
Mm-hmm.
Bon, c'est qu'il y avait d'un côté cumuler les deux, hein.
Ouais, il y avait d'un côté ceux qui étaient contre les nuisances sonores,
ouais,
et de l'autre côté ceux qui étaient pour contre la privatisation des biens publics. Quoi.
Voilà, certains cumulant les deux.
Oui, bien sûr, l'un
moi, par exemple,
quoi.
Je suis contre la vente des biens publics et j'habite à Bagatelle, donc je suis survolé.
Voilà.
Et membre d'une association par ailleurs. Donc voilà, mais en gros, c'est les deux qui ont fusionné et qui ont fusionné avec réussite, ce qui est rare.
Ce qui est très important,
avec des partis politiques, des organisations syndicales et des associations.
Okay.
Les partis politiques, ce sont Europe Écologie Les Verts,
ouais,
l'ensemble du Front de Gauche et le NPA.
D'accord.
Je suis désolé si j'en oublie, mais je ne crois pas. Au niveau syndical, c'est la CGT, la FSU et Solidaire, dont je fais partie, et des associations, c'est ce que je vous ai dit. En gros, c'est ça la grosso modo.
Donc le collectif, quand même, assez fort, assez...
Ouais, très actif.
Ouais. D'accord.
Plusieurs manifs, bon. Donc, pendant ce temps-là, l'État lance son appel d'offres, plusieurs repreneurs se positionnent, un autour d'Aéroport de Paris, un autour de Vinci.
D'accord.
Fameuse multinationale.
Donc des Français, des sociétés françaises,
des capitalistes de différents types.
Voilà, c'est ça.
et donc un consortium qui s'appelait Symbiose, qui est un consortium, alors au départ, sino-canadien. Alors pourquoi sino-canadien ? Il y avait deux grandes entités en fait. Il y avait l'entité chinoise, c'est celle qui finalement a pris la main, et une entité canadienne basée à Montréal, québécoise, qui s'appelle Lavalin. Mm. Cette société Lavalin est une société qui gère l'aérodrome de Francazals.
D'accord.
En délégation de service public depuis quelques années. Et le premier article de Mediapart, au tout début de l'affaire, ce qui nous a permis également de comprendre vraiment et de fédérer, avec un travail extraordinaire de Laurent Mauduit, qui est un des journalistes les plus honorables de ce pays. Alors certains diront qu'il n'a pas de mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais il faut le souligner, on ne le remerciera jamais assez, et les Toulousains ne remercieront jamais assez Laurent Mauduit du travail qu'il a produit. Bon, et donc, on a découvert à ce moment-là que la société Lavalin était une société qui était interdite par la Banque mondiale pendant 10 ans de marcher pour raison de corruption.
Alors ça, c'est une des plus grosses sanctions que la Banque mondiale ait prononcée à l'encontre d'une entreprise.
Oui, je pense même que c'est
la plus grosse sanction.
Bon, et la Banque mondiale, c'est pas des communistes.
Non, c'est sûr.
On est d'accord. Hein. Bon, donc si l'on dit, c'est que vraiment...
C'est quand même, ils ont fait de la merde.
C'est zibon, quoi.
Donc du coup, les Canadiens,
ils ont été
évincés, quoi.
Non, ils sont toujours dans le dossier.
D'accord.
On nous a dit, mais... Vous inquiétez pas, ils vont pas rentrer dans le capital, ils sont là en termes de soutien technique.
Bon.
On a demandé, mais est-ce que c'est pour faire des photocopies, faire le café, ou est-ce que c'est un peu plus substantiel ? À ce jour, nous n'avons toujours pas la réponse.
Bon, okay.
Bon, en réalité, la société Lavalin avait pour ambition, peut-être ne vont-ils pas réussir d'ailleurs, de prendre la gestion de cet aéroport en termes opérationnels.
D'accord.
Parce que les Chinois, eux, ce sont des actionnaires qui placent leur argent, mais ils ne gèrent pas.
Ouais.
Ils ne gèrent pas le quotidien. Hein. Le quotidien, il faut des gens pour gérer.
Oui, c'est ça.
Bon, Lavalin avait cette ambition-là, gérant ainsi Franck Casals et Toulouse-Blagnac.
Bon.
Donc, voilà, donc ce consortium a remporté le marché parce que le prix de vente était de 150 millions d'euros et ils ont mis sur la table 308 millions d'euros. C'est le premier argument.
Donc ils ont doublé en fait la...
Ils ont doublé. Ce qui déjà est suspect.
Oui.
Mais l'autre chose qu'ils ont dit et qui avait déjà mis le feu aux poudres du côté des, en particulier des associations de quartier, nous aussi, mais en particulier là, c'est que l'État français a annoncé qu'il l'avait parce qu'il y avait plus d'argent et qu'ils avaient un formidable projet de développement de l'aéroport, avec une annonce de presque 1 milliard d'euros d'investissement dans les quelques années qui viennent.
D'accord.
Et
la part de l'État français ?
Non, de la part de l'actionnaire chinois.
D'accord, ok.
Ça, c'est une chose très concrète. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est un aéroport dont les avions qui atterrissent et décollent survolent 108 000 personnes qui sont dans la zone de bruit. Officielle, parce qu'en fait, elle est plus réduite que la réalité de la zone de bruit. D'ailleurs, peut-être on en parlera, on veut mettre des capteurs à différents endroits, capteurs de bruit. Donc, dire qu'on va développer l'aéroport de Toulouse-Blagnac veut dire qu'on va multiplier les vols.
Bien sûr.
Bon.
Multiplier les nuisances.
Or, on est dans l'aéroport le plus enclavé de France avec Orly. Bon, et le positionnement historique des associations de quartier, c'est de dire on ne veut pas un développement du trafic aérien. Et on veut même l'interdiction des vols de nuit, comme c'est le cas à Orly. Bon. Donc l'annonce de dire on va amener plein de thunes et on va développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire faire atterrir de gros porteurs venant d'Asie et éventuellement s'arrêter un peu à Toulouse, faire du shopping, mais ce n'est pas sûr du tout. Quelques hommes d'affaires et à Airbus. Si... Et s'ils ne s'arrêtent pas là, ils vont aller quelque part en Europe dans des A320 qui vont les amener à Londres, Paris, Berlin ou je ne sais trop où. Ça s'appelle un hub. Bon. Alors déjà, du point de vue de la vision qu'on a du développement humain, du développement tout court, économique, social, politique, il est déjà très contestable de penser qu'on va multiplier les trafics aériens.
Bien sûr.
Bon. Le réchauffement climatique, toute une série de raisons, l'épuisement des ressources, etc.
Pour plus d'arguments, vous pouvez vous référer à la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Ils en ont développé des arguments là-dessus.
Pas mal, mais pas que eux. Alternativa que, non, aussi, mais... je crois, fait. Bon, enfin, bref,
plein de choses se
disent là-dessus. Bon. Mais ce n'est pas ce qui a fait l'unité de notre collectif, ça. Il y a ces débats-là, bien sûr, mais bon.
Oui.
Mais parce que l'autre problème, c'est si tant est qu'il faille faire un hub. Bon. On ne peut pas le faire à l'endroit où on est en ville.
Oui.
Parce que là, on sacrifie 100 000 habitants sur l'autel du développement. Bon. Et donc ça, évidemment, ça a été l'argument supplémentaire qui a fait bouger tout ce beau monde.
Alors revenons peut-être sur la privatisation.
Ouais.
On a parlé donc de ce consortium sino-canadien.
Oui.
On a parlé des Canadiens.
Oui.
Du coup, maintenant, peut-être sur la partie chinoise.
Alors, donc une fois que tout ça s'est fait. Bon, nous, d'une part, on a, donc je l'ai dit, un recours au Conseil d'État pour annuler la vente. Mais évidemment, la vie a avancé. Ils ont laissé passer tout tranquillement les élections au conseil départemental pour pas emmerder leurs petits copains pendant les élections, en particulier dans les quartiers survolés.
Bien sûr.
Et ils ont fini par vendre. Enfin, on verra dans quelles conditions, j'y reviendrai. Mais... Et donc, ils ont constitué une société qui s'appelle Quasi l'Europe.
C'est ça.
Dont l'adresse est 6 places de la Madeleine.
À Paris. Là.
À Paris. Et qui est une société écran. Ce qui a été à nouveau révélé par Mediapart, dans lequel,
jours,
pour tout vous dire, il y a quelques jours, pour tout vous dire, on a mis, le collectif a mis son intelligence, ses connaissances et ses capacités de recherche pour aider Mediapart à produire tout ce qu'il a produit. Donc on se retrouve avec une société écran, avec un capital de 10 000 euros à Paris, qui n'a pas de bureau, qui a une adresse postale dans une maison d'édition, en fait. Et on l'a découvert tout simplement en cherchant leur numéro et de téléphone sur les pages jaunes, donc qui existent toujours, qui sont plus publiques depuis longtemps, mais qui existent toujours. Et en téléphonant à la concierge du 6 Place de la Madeleine, et après Laurent Mauduit s'est déplacé pour parler avec elle et constater, vous avez les photos d'un Mediapart, qu'il n'y a pas d'adresse.
On a lu son article.
Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième société écran à Hong Kong qui, elle, a quelques centaines d'euros de capital et qui contrôle la société Quasi l'Europe. Ça coûte 30 euros sur Internet pour obtenir le registre du commerce à Hong Kong, ce qu'un journaliste en France a fait, donc, je parle de journaliste d'ampleur, c'est Laurent Mauduit qui a pris sa carte bleue. Et en amont de ça... alors, les traces commencent à se perdre et il est probable que donc il y ait deux sociétés, une qui s'appelle Friedman, je sais plus quoi, et l'autre Shanghai, je sais plus quoi, mais vous l'avez dans l'article de Mediapart. Excusez-moi, je ne connais pas par cœur. Et ces deux-là, alors une, elle est dirigée par Mike Poon, donc le fameux PDG qui a disparu. Elle contrôle à la fois une part de l'actionnariat de Quasi l'Europe et l'actionnariat d'une société qui s'appelle Calc, qui est un loueur d'avions, qui est l'un des plus gros acheteurs d'Airbus. C'est de cette société que Mike Poon a démissionné en disparaissant.
La société Calc.
Oui, il est toujours PDG de Quasi l'Europe.
D'accord.
Enfin, en tout cas, à notre connaissance, à l'heure où on parle. L'autre société est-elle une société qu'on pourrait qualifier de fonds souverains chinois, qui en fait est contrôlée probablement par l'État chinois? C'est un peu comme si la Caisse des dépôts et consignations, toute proportion gardée, bon, investissait à l'étranger. Bon. Donc en fait, dans le processus, on a ce qui est de la particularité du capitalisme chinois. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous on est contre la vente, mais on est obligé de regarder quand même qui achète.
Ouais,
pas
sûr.
Au nom d'une essentialisation des Chinois,
oui.
Hein, qui est un peuple tout aussi honorable que tous les autres au monde, qui d'ailleurs a en son sein des luttes très très fortes de la population sur les questions environnementales ou sur les conditions ouvrières et paysannes. Bon, donc c'est pas question de ça, mais par contre, le capitalisme chinois, lui, il s'appuie sur une dictature qui tue par centaines ses citoyens chaque année, soit pour dissidence, soit pour corruption. Et il a une forme d'agressivité parce que la concentration du capital avec l'extorsion de la plus-value, si je puis me permettre une digression sur le terrain marxiste, lui a permis d'avoir une marge de manœuvre extrêmement importante. L'exploitation des travailleurs chinois permet de concentrer ce capital et donc d'aller se diversifier à l'échelle internationale. Dans un premier temps, ils avaient placé beaucoup de bons du trésor américain. Et là, ils diversifient, ce qui explique l'implantation en Afrique ou en Europe. Bon. Et cette opération, en fait, est une opération, une mise en pied sur le territoire européen pour permettre le développement et le placement de cet argent qui transite par des paradis fiscaux.
Oui, parce qu'en fait, on peut reprendre. Moi, j'avais noté l'arborescence un peu des holdings et des filiales de Casil Europe.
Oui.
Alors, juste pour vous faire en très rapide, Casil Europe, c'est la holding de Capella Capital Limited, qui est aux îles Vierges britanniques, qui est elle-même la holding de Friedman Pacific Investment Holding Limited, qui, on ne sait pas où elle est, où est le siège social.
C'est Mike Poon qui est le PDG de celle-là.
Ce qui est elle-même la holding d'une filiale qui s'appelle Friedman Pacific, autre chose qui est elle aux îles Vierges britanniques.
Et dont le PDG est Mike Poon.
Voilà, et donc qui est elle-même la holding de China Aircraft Leasing Group, qui est elle au Caïman.
Et c'est de cette dernière, Mike Poon a démissionné. Le reste, il est encore PDG. Ça, c'est le bon enchaînement pour ce qui est la filière Mike Poon. Mais il y a une autre filière dans l'actionnariat, c'est celle dont je vous parlais, qui est l'espèce de fonds souverains chinois.
D'accord,
mais Mike Poon est également membre d'une assemblée, je crois qu'il s'appelle ça, assemblée populaire chinoise, et membre du Parti communiste chinois, bien sûr.
Évidemment. Évidemment.
Enfin, communiste. J'ai trop de respect pour le communisme pour appeler ça communiste.
Bon, alors du coup, ce Mike Poon là, il a disparu. Pourquoi il a disparu? C'est quoi l'intérêt?
Bon,
alors, il a vendu aussi des parts de.
Il a vendu des parts, mais pas de Casil Europe. Il a vendu des parts de Calc.
D'accord.
À perte d'ailleurs. Enfin, à perte, vous inquiétez pas pour lui, ça doit aller.
Ça devrait aller.
Lui et sa femme sont parmi les premières richesses chinoises. Ce qu'on appelle, ils seraient russes, on dirait oligarques.
Ouais.
Je crois que d'ailleurs, Laurent Maudit reprend le terme.
Il a vendu pour 770 000 euros de parts.
Ouais, mais c'est 170 000 euros, c'est déjà là, c'est pour l'apéro. c'est pas beaucoup. Il y a probablement beaucoup plus. On sait qu'il y a une campagne contre la corruption en Chine. Actuellement, il y en a périodiquement, qui est menée par l'État chinois. Elle se solde, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas une image. D'ailleurs, c'est très choquant que les autorités françaises accueillent le Premier ministre chinois sans lui en parler. Se traduit par des assassinats. Alors, bon, il y en a qui disent la peine de mort, ça s'appelle des assassinats, en fait. Hein. Est-ce que ce sont les corrompus qui sont assassinés? Je ne suis même pas sûr. Donc, Mike Poon, une des hypothèses, mais on n'en sait rien, en fait. C'est qu'il est poursuivi pour corruption, et comme il a peu envie d'avoir une balle dans la nuque, il se barre. Voilà, tout simplement. Et donc il disparaît, je ne sais pas où, peut-être à Hong Kong, parce que Hong Kong est un cas particulier en Chine, où je crois l'État chinois a moins, ouais, voilà. Mais voilà, et il se barre et puis il met à l'abri ses sous. Bon, le truc, c'est que bon, tout le monde nous a dit que ce n'est pas grave. Hein. Valls, Macron,
oui,
on les a quand même contraints. Il y en a qui râlent beaucoup, mais moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'on les a contraints à réagir. Et leur grand raout qu'ils ont fait hier et avant-hier à Toulouse sur le sommet économique franco-chinois, on lui a mis un petit caillou dans la chaussure. Un petit caillou dans la chaussure, parce que tout ce beau monde, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ils veulent nous dire, il n'y a pas de problème, Mike Poon est disparu, mais la personnalité morale est là, blablabla. Ce qu'ils veulent camoufler, en fait, c'est qu'ils connaissent très bien les problèmes de corruption, ils veulent pas que ça se dise, parce que la France, avec tous ses défauts, reste un État dans lequel on a une liberté d'expression qui est certes et peut être jugulée, mais qui me permet encore de venir vous voir ici, et qu'on ait une discussion sur ce sujet-là, ça risquait en sortant de me faire assassiner, a priori, j'espère. Si je suis assassiné,
on gardera,
je ne cherchais pas les coupables. Je sais, oui, qui sait. Non, vous voyez, c'est quand même, c'est pas pareil. En Chine, c'est pas le même match. Bon. Donc, ils veulent pas que sortent toutes ces affaires-là, parce que ça veut dire concrètement que la France, le gouvernement français, qui par ailleurs est un gouvernement dont le président de la République a déclaré au congrès de je sais plus quoi pendant la campagne électorale que son ennemi était la finance, qu'ils ont commencé, c'était l'époque Montebourg, à dire nous avons une action internationale extraordinaire contre les paradis fiscaux, et cet État-là vend notre aéroport dans notre dos à des sociétés basées dans des paradis fiscaux.
C'est ça.
Avec du blanchiment d'argent, parce que nous, ce dont on est sûr, on ne vous fournira pas les papiers et les preuves qu'on ne les ait jamais, c'est que l'argent qui arrive de Chine, qui passe par les paradis fiscaux, est une opération de blanchiment d'argent, soit d'argent vraiment sale, c'est possible, soit de toute façon, l'argent qui a été volé aux travailleuses et aux travailleurs chinois. Voilà, ça, alors je sais bien que par les temps qui courent, l'argent n'ayant pas d'odeur, les travailleuses, travailleurs, tout ça, c'est pour aller la lier. Bon, mais sauf que il y a des vrais travailleuses et travailleurs en Chine qui ont souffert sang et eau pour le développement. Bon, et que ces gens-là captent leur pognon pour maintenant venir capter. Pas ceux des Français, parce que c'est pas les Français le problème. Ceux des travailleuses et des travailleurs en France. C'est ça qui se passe. Et là, c'est les Chinois, mais demain, ça peut être d'autres. Par ailleurs, quand la France fait à l'inverse, elle fait la même chose. Mais on a un capitalisme sécularisé depuis 300 ans, des instances parlementaires. Bon, c'est pas la même histoire. La Chine, une histoire capitaliste plus récente, une dictature. Bon, c'est voilà. Mais fondamentalement, les grands problèmes macroéconomiques, l'architecture de tout ça, c'est l'architecture de la mondialisation. Voilà, capitaliste. Bon, voilà, il y en a qui s'en accommodent, moi pas. Voilà.
Bon, et du coup, on peut peut-être revenir un petit peu sur la gestion de cet aéroport-là. Maintenant, qui c'est qui le gère?
Alors,
vraiment, quelles sont les possibilités de lutte aussi pour espérer pas forcément revenir en arrière, c'est pas ça l'idée, mais en tout cas reprendre un peu, enfin voilà.
Si, nous on a comme idée notre objectif, qui est un objectif qui est ambitieux. Le premier, c'est de faire revenir en arrière sur la vente. Donc on a un recours au Conseil d'État, c'est juridiquement possible, politiquement difficile.
Oui, bien sûr.
Sauf si se poursuivent les révélations.
Bien sûr.
Parce que, bon, là, on a un aspect. Mike Poon, il a un nom de bande dessinée, tout ça, ou je sais pas, de polar.
Ouais.
Donc tout ça fait. C'est un peu folklore. Bon, donc on va voir. Donc on a demandé deux choses à M. Macron. Enfin, on a posé cette question, mais je vais résumer une qui me paraît celle qui peut le plus faire avancer. On a demandé les preuves de paiement.
Les preuves de paiement de.
Des 308 millions d'euros.
D'accord. Ouais,
okay. Preuve que l'État français a été payé. Parce que comme citoyen, bon, parce qu'on a le droit quand même de voir les papiers.
Puis c'est pas gagné en fait que ce paiement ait eu lieu.
Oh ben ça, écoutez, quand on aura vu les papiers, on verra, on dira, si on les voit. Et deuxièmement, la traçabilité des fonds. C'est-à-dire si ça a été payé, par où l'argent a transité.
D'où vient l'argent.
Est-ce que, on propose également que soient saisies les autorités judiciaires françaises pour enquêter sur l'origine de ces fonds. Parce que tout à l'heure, j'ai dit tout tranquillement que sûrement il venait de l'argent du blanchiment. Bon, j'ai bien entendu incapable de fournir la moindre preuve de cela. Mais des autorités sont capables. Il y a Tracfin, il y a une série de... Bon, nous, on est, je vous dis tout à l'heure, dubitatif sur l'état de droit en France. Mais comme on a quand même, comme citoyen, on peut demander des droits, que l'état de droit s'applique. Bon. Donc c'est une des solutions, parce que si c'est le cas, alors ce qui est juridiquement possible devient politiquement intenable. Voilà, donc nous mènerons campagne là-dessus, contre la corruption. Voilà, c'est pas une petite nouvelle, parce que la gauche syndicale ou politique, les organisations, vous imaginez bien, de quartier ont pas pour habitude de poursuivre la corruption, vous voyez. Même si on peut la dénoncer. Là, on pense qu'il est temps qu'on rentre de plein pied dans ce débat-là, sans craindre les retours de bâton, par exemple, de l'extrême droite. Vous voyez, parce que derrière tout ça. Il y a, par exemple, le Front National a fait une seule réaction, c'était avant-hier.
Sur
l'aéroport. Il y a un communiqué de presse national qu'on s'est empressé de ne pas mettre en ligne, bien sûr, que j'ai lu. Dedans, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent la corruption, blabla, l'institution européenne, comme d'hab.
Oui.
Et ils disent, mais c'est pour ça qu'il ne fallait pas vendre cet aéroport, sauf à des intérêts français. C'est-à-dire pour le Front National, mais ce ne sont pas les seuls. Il aurait fallu vendre, mais à Vinci.
Oui, bien sûr.
Mais à Vinci. Voilà. Mais par ailleurs, les problèmes de corruption, si les courants que je vais qualifier de progressistes, c'est-à-dire ceux qui voient un avenir pour l'humanité, qui est un avenir de progrès, pas au sens technologique, de progrès dans les relations sociales, dans le monde du travail, etc. Il faut qu'elles se saisissent ce problème-là. Parce que si elles n'en prennent pas la tête, alors l'extrême droite en prendra la tête. Moi, je suis persuadé de ça. Donc là, on a une occasion, et faut la saisir, sans hésiter. Et bon, donc c'est les deux pistes qu'on a. Est-ce qu'on va réussir à les tenir ? Je ferai aucune promesse qui n'engage, comme dirait Charles Pasqua, que ceux qui les croient. Mais la seule promesse, c'est qu'on va se bagarrer très très fort. On va continuer la bagarre. Et on ne laissera pas tout ça partir en silence. Et la deuxième chose, c'est qu'on va être... on est déjà, mais les associations de quartier le sont depuis longtemps. On va leur filer le plus gros coup de main qu'on peut. Être très vigilant sur le développement du nombre d'avions sur nos têtes dans notre ville, parce qu'il est hors de question que les 100 000 riverains survolés soient les sacrifiés de l'opération au nom d'intérêts qui les dépassent complètement et que tout tranquillement ceux qui n'ont pas les avions sur la tête disent mais bien sûr, mais tout ça va bien, et qu'on laisse les quartiers, parce qu'il faut voir les quartiers, Ampalo, Bagatelle, La Farouette, Le Mirail, ceux qui ont déjà souffert de l'explosion AZF, qui souffrent du chômage, de la misère, de la précarité, souffrent des avions, on ne laissera pas se développer ça au-dessus de nos tronches parce que ces messieurs dames ont décidé de faire du pognon. Voilà.
Et le travailleur de l'aéroport,
le travailleur de l'aéroport, on a des contacts avec la CFDT de l'aéroport, qui est le syndicat majoritaire, et la CGT, mais qui est un syndicat minoritaire, qui sont venus, ce qui n'est pas non plus une petite nouvelle, parce que un travailleur de l'aéroport, je parle là des ingénieurs, techniciens qui organisent le trafic aérien, il peut y avoir des conflits d'intérêts, parce que eux, leur outil de travail, c'est quoi ? C'est faire décoller des avions et les faire atterrir.
Et plus il y en a, et plus ça de travail.
Alors, c'est pas composé que d'abrutis, donc évidemment, les gens, ils réfléchissent un peu, mais quand même, c'est comme l'ouvrier de la chimie à l'époque d'AZF. Je me suis eu des débats dantesques, d'ailleurs j'ai eu un ici, au passage, tiens. à l'époque, le gars, il est ouvrier dans la chimie, son outil de travail, c'est la chimie. Quand tu lui dis, écoute mon gars, ton truc fait chier, il dit, mais non, moi je veux travailler. C'est un peu, résume les choses, c'est normal.
C'est un peu le même mécanisme.
Ils sont venus nous voir, parce qu'ils sont extrêmement inquiets de l'arrivée de cet actionnaire. Extrêmement inquiets. Mais eux, chez les salariés, par exemple Chantal Berdemander, dont j'ai parlé, c'est un peu le diable quand même. Parce que c'est elle qui a merde, qui vient depuis des années, elle n'a pas commencé l'année dernière, dire mais non, les vols de nuit ça va pas, mais non, le nouveau ce créneau, mais non, là par exemple il y a une campagne, on veut mettre des capteurs, parce que vous savez, il y a un programme de gêne sonore, ça s'appelle un PGS, qui fixe administrativement l'endroit où il y a du bruit. Bon. Et donc, dans lequel on peut faire des demandes pour les sonorisations des maisons, bon, etc., etc. Dans lequel il y a des contraintes également en termes d'urbanisme, on ne peut pas construire. Bon, bref. Ce PGS est faux. Parce qu'il est issu de capteurs, mais après il est issu d'un logiciel qui transcrit en frontière les données des capteurs. Donc on a commencé et on a demandé une subvention au conseil départemental qui, je pense, va accepter pour qu'on ait une étude, je crois que c'est Bruit Parif, je crois, qui va faire ça. Excusez-moi si je me mets, bon, je crois que c'est le nom. Des capteurs en dehors des zones du PGS, juste à la frontière. Mm-hmm. On en a déjà mis deux, hein, qui ont déjà démontré que le bruit, en fait, le PGS est faux.
Large, quoi. Ouais,
oui,
voilà, c'est ça.
Oui. Vous voyez, donc ça, c'est indépendant de l'actionnaire. Hein. Mm. Parce que l'avion, il fait du bruit, il fait pas du bruit public et du bruit privé, il fait du bruit tout court. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est une autre bataille qui, quel que soit le repreneur, on va continuer à mener avec nos forces. Et je le répète, dans des quartiers où, qui souffrent beaucoup, dans lesquels le travail collectif est très compliqué. Le fatalisme autour du chômage, tout ça est fort, mais autour du bruit des avions encore plus. Les avions, ils sont là, il y a le périph, tout ça, et donc dans lequel les militantes et les militants que nous sommes, bon, on sait bien qu'on représente l'intérêt, on est sûr, mais il n'y a pas les foules derrière pour faire les manifs.
Oui, parce que forcément, ouais, comme tu dis, fatalisme, quoi. C'est,
bon, ben oui.
Il faut qu'on déménage, quoi.
C'est ben ça. Oui. Moi, je suis né rive gauche de la Garonne, j'ai 50 balais maintenant. Pendant longtemps, j'ai toujours habité à côté d'AZF. Puis fini par péter dans ma maison. Bon, j'ai toujours dit, bon, ça pue l'ammoniaque, ça pue l'ammoniaque. Puis un jour, ça va péter. Hein. Ouais, bon, ça va péter. Bon, ça a pété. Voilà, mais il y avait un fatalisme. J'ai jamais vu une réunion, moi, contre AZF. Jamais. Si après, il y en a eu plein. Mais il y a des gens qui s'en préoccupaient.
Bien sûr.
Hein. Il y a des gens qui. Voilà, c'est ces militants-là, ce que moi, j'ai pas fait à l'époque. Hein. Ceux-là, il faut les soutenir parce qu'ils représentent l'intérêt commun, mais vraiment pour de bon, pour 100 000 personnes qui pèsent rien du tout dans le cadre de la mondialisation, rien du tout, qui pèsent pas grand-chose au niveau régional, qui pèsent un peu plus au niveau départemental pour deux ou trois cantons, et encore, je ne sais même pas s'ils y sont, et qui pèsent rien du tout aux yeux de Jean-Luc Moudenc, président de la métropole, qui lui s'adresse à la rive droite, pas oui. Toutes, hein. Pas toutes, parce qu'il y a des quartiers populaires rive droite, qui s'adresse à ses soutiens de la bonne bourgeoisie qui prend l'avion et à ceux qui en sont loin, et qui a rien à cirer, mais rien à cirer de nous, rien, et qui a là, profitant de l'occasion, proposé aux mêmes actionnaires chinois de payer avec lui une partie du nouveau parc des expositions qui sera à Bazièges et qui est un équipement absolument inutile pour les populations parce qu'on en a déjà un parc des expos, il est sur l'île du Ramier et encore pourrait-on discuter ce qu'on y fait si c'est vraiment utile. C'est encore un autre sujet, vous voyez. Donc tout ça, voilà, on n'a pas fini la bataille, mais qui est une bataille très très importante, pour notre ville, et même quelque part, pour une certaine idée, de notre avenir commun, ouais, voilà, de notre avenir commun.
Alors le collectif contre la privatisation de la gestion de l'aéroport, comment on fait si on veut le contacter, le rejoindre, comment on peut aider, comment on peut faire?
Alors, on a essayé d'utiliser les moyens de communication modernes, comme dirait l'autre. donc on a une page Facebook. Il suffit de taper collectif contre la privatisation de l'aéroport de Toulouse sur le petit moteur de recherche, pof, on tombe dessus. Voilà. Et là, à partir de là, il y a les contacts,
on peut vous
retrouver. Ouais, on nous écrit et puis on répond tout de suite.
Une adresse mail peut-être?
Alors non, on n'en a pas.
Non, vous en avez pas. Très bien.
On n'a pas passé le cap. Facebook, on a fait par Facebook et finalement, moi qui suis donc déjà vieux, militant, c'est plus efficace que beaucoup de flyers et de tracts, en fait, en vrai. Et alors, bon, c'est pas. Pas tout, on en a distribué plein. Là, pour ce coup-là, ce qui nous a permis de faire, c'est ça. Et là, on travaille sur deux choses. Bon, le premier, c'est le recours au Conseil d'État qu'on continue de travailler, qui est un gros sujet, parce que c'est pas facile à faire, avec un avocat, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait deux actions, une à l'aéroport, qui était le faux mariage de l'aéroport. Mm-hmm. C'était au mois d'avril, donc avec des acteurs et des militants. Ou des acteurs militants aussi. On va en sortir un court métrage à la rentrée. Et là, on a fait la fausse conférence de presse à Jean Jaurès, qui était, à mon avis, plus réussi que le premier d'ailleurs, très, très drôle, en fait, je trouve. dont on va alors peut-être sortir un film de cette conférence.
Okay.
Et à coup sûr, rajouter dans le film qui était déjà prêt, mais on va remonter le film avec la conférence pour faire l'épilogue provisoire.
Okay.
Voilà, avec une diffusion à Utopia Tournefeuille normalement à la rentrée.
Bah vous nous tenez au courant du coup.
Ouais.
Et puis on annoncera à la radio les rendez-vous et les différents rendez-vous.
Lisez les journaux, en particulier Mediapart. Et si vous avez des sous, abonnez-vous-y, parce que je pense que dans les jours, les semaines qui viennent, d'autres
papiers sortiront, d'autres révélations.
Ouais. Oui, probablement.
Ok, ouais. Très bien. Eh bien, ben, merci beaucoup Stéphane Borras d'être venu à Canal Sud. On écoute un petit peu de musique et puis après on passe à...